Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'ombre d'un doute est de retour ce soir à 23h15 sur France 3 et Franck nous y racontera l'incroyable destin d'une chanson culte, Lili Marlène, avec tout de suite sur Europe 1 un avant-goût de cette saga. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous et avant tout un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Vous savez que les chiffres d'audience sont tombés ce matin. Ils sont bons, tant mieux, ça nous fait plaisir. Nous sommes de plus en plus nombreux, peut-être pas à aimer l'histoire, mais à le manifester chaque jour sur Europe 1. Alors, pour tout le monde, Lili Marlène, parce que c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Lili Marlène, c'est ça.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlène.
Marlène Dietrich, évidemment. Seulement, vous allez voir que cette interprétation mythique de la grande Marlène est loin d'être la seule et que la célèbre chanson a été mise à toutes les sauces, par tous les camps, lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour nous l'expliquer, j'ai invité ici, dans les studios d'Europe 1, l'homme qui a retracé dans les moindres détails la saga de Lili Marlène, c'est Jean-Pierre Guénot.
Alors Franck, en préambule, vous souhaitiez nous replonger quelques minutes dans la France occupée.
Eh oui, histoire de vous rappeler que malgré l'occupation allemande, et peut-être même à cause d'elle, les Français, il y a 70 ans, n'avaient pas renoncé à se distraire.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En France, estimait Beaumarchais dans la ritournelle qui clôt son mariage de Figaro, tout finit par des chansons. On pourrait extrapoler et dire « tout se passe en chansons » au pays de Félix Mayol et de Maurice Chevalier, ou bien « tout se passait », car il me semble qu'on chante moins aujourd'hui qu'on a chanté hier, que l'on entend moins les gens siffler, fredonner, pousser la chansonnette. Que voulez-vous, tout se perd, ma bonne dame. Sous l'occupation, en tout cas, la plupart des Français courbaient l'échine, tiraient la langue, mais ça ne les empêchait pas de chanter et d'écouter ceux qui chantaient pour eux. Henri Amouroux, qui s'était fait le chroniqueur de cette époque, certains diraient qu'il en était même devenu le chantre. Henri Amouroux nous raconte les foules faisant la queue il y a 70 ans devant les cabarets, les théâtres de chansonniers, les music-halls qui ne désemplissent pas. Les chansons à la mode sont bien souvent inspirées par les malheurs de l'époque, évidemment. C'est que les chanteurs sont souvent le reflet, finalement, des tribulations du temps. Les prisonniers qui s'en vont travailler en Allemagne, les restrictions, la défaite. Léo Marjan chante « Te revoir, je suis seul ce soir ». Maurice Chevalier, la chanson du maçon, et puis bien sûr, ça sent si bon la France. Nous avons consacré il y a quelques semaines une émission à Maurice Chevalier. Nous avons vu que l'une des périodes fastes de sa carrière était précisément et paradoxalement cette période de l'occupation. On fredonne un peu partout. Si tu vas à Paris, dis bonjour aux amis. On évoque la belle vie, la vie tranquille de l'entre-deux-guerres, d'avant les événements. Chez Bébert, on n'y danse plus la java, chante-t-on. Et puis on chante aussi les malheurs du temps, tout simplement. Elle avait des semelles de bois, par exemple. Il y a un véritable style qui naît, qui est une sorte de style de l'occupation et qui s'incarne dans un certain nombre de jeunes chanteurs. Style Johnny S. qui lance « Je suis swing » et qui, avec son air d'éternel adolescent, avec ses cheveux longs, sa veste très longue et ses pantalons très courts, appartient à ce qu'on appellera le mouvement Zazou. Des Zazous du reste qui, au-delà de l'occupation, continueront à teinter la culture parisienne et la culture de ces années de la fin jusqu'à la fin des années 40 et même au tout début des années 50. Mais Est-ce qu'il y a de nouveau, de très particulier pour le moins dans le public des récitals qu'on peut donner dans ces années d'occupation? C'est que ce public est mêlé, évidemment. N'oublions jamais qu'on y trouve beaucoup d'officiers et même de soldats allemands. Tous ces Allemands qui viennent de débarquer, qui viennent d'arriver à Paris, vont faire du gay Paris, comme on dit, un but d'excursion. Dès la deuxième semaine de juillet 1940, on les voit au Lido, on les voit au Casino de Paris, aux Folies Bergères, au concert Mayol. Qu'est-ce que vous voulez? Paris sera toujours Paris, n'est-ce pas? Alors à leur intention, un certain nombre de publications germaniques ont d'ailleurs édité des cartes spéciales. Le Pariser Zeitung notamment donne une liste très précise des établissements, des boîtes de nuit qui sont recommandées. Tout ça se concentre sur trois quartiers essentiellement, qui sont de tradition et depuis les années folles au moins, même un peu avant pour certains d'entre eux, les épicentres du Paris nocturne. C'est Montmartre bien sûr, c'est Montparnasse toujours, et puis ce sont déjà les Champs-Élysées. Un mois après l'entrée des Allemands à Paris, une rédactrice de La Gerbe recense les cabarets où l'on s'écrase. À la Roseraie, écrit-elle, pas une place libre. Au paradis, nous nous retrouvons juchés sur de hauts tabourets au bout d'un couloir étroit de jambes et de bras, beaucoup d'uniformes, maintien très digne et tenue impeccable. Évidemment, il ne faudrait surtout pas que ce Paris de la fête et ce Paris de la nuit, ce gay Paris qui amuse tant les officiers allemands, fasse oublier toutes les souffrances, toutes les difficultés et la morosité générale d'un pays sous l'occupation. Néanmoins, lorsque tant de Français ont faim et froid, écrit Henri Amouroux, dans le cruel hiver 1941 notamment, ils évoqueront sans dignité, quand il dit « ils », ce sont les chroniqueurs du Paris léger, que voulez-vous, ils sont incorrigibles, ils évoqueront ce club où, et Amouroux cite la phrase du chroniqueur, « les murs roses et or enclosent précieusement une atmosphère tiède » et où, je cite toujours, « le rayon du projecteur sent l'orange, cependant que le tintement de la glace dans les seaux meuble le silence, bref, de l'orchestre ». Au premier rang des vedettes de ce Paris aux salles un peu gênées, teintées de vert de gris, figure Suzy Solidor. Ah, Suzy Solidor, elle est la garçonne des années 30, vous savez, cette femme aux mœurs sulfureuses, ou prétendue-t-elle. Elle est l'égérie des peintres de Montparnasse. Elle a pendant très longtemps fait tourner la tête de bien des Montparnasse, de Fujita, de Vlaminck, de Van Dongen. Son portrait le plus célèbre est celui qu'a fait d'elle Tamara de Lempicka, bien sûr, en 1933, qui est restée une icône du genre et du style art déco. Elle est, vous savez, cette femme androgyne, tellement sûre, tellement chic, aux formes sculpturales dont la célébrité s'est faite avant la guerre, mais qui va connaître une suractivité comparable à celle de nos grandes stars actuelles pendant la guerre. On peut le dire, Suzy Solidor s'épanouit sous l'occupation, son établissement est de ceux que les Allemands fréquentent le plus volontiers, et c'est pour eux d'abord que Suzy Solidor va interpréter ceci.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là que le soir, on s'attendait rempli d'espoir, tous deux, Lili Marlène, tous deux, Lili Marlène.
Alors, Suzy Solidor chante en 1942 Lili Marlène. Marlène Dietrich chante à la Libération Lili Marlène. Vous allez voir que celle qui a créé la chanson est une très grande chanteuse allemande, Lalle Andersen. Il y en a eu bien d'autres. Et ce qui est plus étonnant, c'est que cette chanson, et je comprends qu'elle puisse susciter des interrogations et des flottements un peu partout, parce que cette chanson, elle est à la fois une chanson allemande inscrite dans le patrimoine germanique et qui va même devenir, à toute force, une sorte d'hymne nazi, et en même temps elle devient la chanson préférée des soldats alliés, des soldats anglais, américains, qui peu à peu vont en faire une sorte de talisman et vont en faire leur porte-chance pour la libération de l'Europe. D'où vient cette chanson Lili Marlène? Quelle est son incroyable histoire? C'est ce que Jean-Pierre Guénaud est allé rechercher. Il a fait un travail énorme pendant des mois. Il est allé recueillir des documents tout à fait inédits dont vous entendrez certains en avant-première avant l'émission de ce soir, immédiatement là sur Europe 1, Jean-Pierre Guénot est avec nous dans ce studio pour faire revivre l'histoire incroyable de Lili Marlène.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, nous vous retrouvons comme convenu avec votre invité Jean-Pierre Guénot, écrivain, historien et directeur d'édition, auteur de Lili Marlène, l'incroyable histoire de la plus belle chanson d'amour.
On aurait pu sous-titrer aussi l'incroyable histoire du premier tube planétaire finalement,
exactement,
parce que c'est vraiment ce qu'a été cette chanson Lili Marlène. J'ai presque envie de dire c'est vraiment ce qu'elle est, car on peut en parler au présent, c'est incroyable la postérité inouïe de cette chanson. Évidemment, les recherches de Jean-Pierre Guénot ont fait l'objet d'une émission de télévision que vous pourrez voir ce soir. Je pense que nos éditeurs ont compris.
Sur France 3.
Évidemment, elles nous ont permis de recueillir un certain nombre de documents sonores que vous allez entendre là pendant le cours de cette émission. Mais ça a donné aussi, donné lieu à un petit ouvrage. Je dis petit parce qu'il est mince, mais très dense et extrêmement amusant à lire dans la collection Librio, donc ce Lili Marlène de Jean-Pierre Guénot. Pour tout vous dire, tout est né dans un train. Figurez-vous, on fait pas mal d'opérations spéciales. À l'instant, Jean-Luc Petit-Renaud parlait de la cuisine des étoiles.
La cuisine des étoiles, oui.
Eh bien, nous avions fait l'année dernière avec Europe 1 un train qui s'appelait Littératour. On était allé se promener dans 13 villes de France pour aller y porter la littérature et la noblesse du livre. Et c'est au cours d'un de ces voyages que nous, vous savez, on avait quand même de longues heures.
Ah, de longues heures à passer en train, oui.
Et Jean-Pierre me parle de cette histoire de Lili Marlène. Et je vous avoue que j'ai été l'auditeur privilégié de ce qu'il me racontait. C'était tout à fait fascinant. J'ai découvert que cette chanson que je croyais connaître en fait avait eu une vie inouïe. Et j'ai dit à Jean-Pierre Guénot, mais il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. Et c'est devenu donc cette émission de télé, cette émission de radio. Bonjour Jean-Pierre Guénot.
Bonjour.
Merci d'être donc avec nous dans ce studio dès ce début d'après-midi. Comment vous est venu cet intérêt pour la chanson Lili Marlène?
Eh bien, c'est une parole de Poilu, en fait. À chaque fois que j'entendais cette chanson...
Il faut dire que vous êtes l'auteur de Paroles de Poilu, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore.
À chaque fois que j'entendais cette chanson, qui est l'hymne de la Seconde Guerre mondiale, je me disais, mais il y a autre chose. Et puis une nuit, j'ai eu le temps de fouiller, et là, bingo, tout de suite, bien sûr, c'est l'œuvre d'un poète allemand qui s'appelait Hans Leip, qui était un jeune Poilu qui mesurait 2 mètres et qui, à cause de ça, avait été versé dans la garde impériale à Berlin. Et cet homme, 15 jours avant de partir sur le front russe, dans les Balkans, dans la pire période de la Grande Guerre, savait très bien que son espérance de vie était très limitée. Et il est tombé amoureux d'une certaine Marlène. Et puis un jour de printemps, il a embrassé une certaine Lily, qui était la petite amie d'un de ses colocataires. Il y avait déjà des colocataires à l'époque, on n'a rien inventé. Et puis ensuite, il a été victime de son indiscipline, consigné. Mais lui est arrivé tout un tas de mésaventures. Et avec ces deux femmes, il a fait une sorte de chimère, une chanson. La chanson La Jeune Sentinelle, qui est devenue Lili Marlène.
C'est-à-dire qu'en fait, dans cette chanson, il mêle le souvenir de deux femmes. C'est bien ce que je comprends.
Souvenir de deux femmes, et avec lesquelles il ne se sera rien passé, en fin de compte. C'est une pure chimère au départ. Et puis ensuite, il part sur le front russe, tout est fini. Ce qui lui sauve la vie, c'est qu'il tombe d'un pont. Il se casse une vertèbre, il est démobilisé en décembre 1915. Et il ne publiera ce texte qu'en 1937.
Alors ce texte, il faut en donner une traduction française, puisque 9 fois sur 10, on l'entend en allemand ou en anglais. Donc c'est « vor der Kaserne », c'est devant la caserne, devant le portail, il y a toujours cette lanterne qui faisait briller nos amours, assis nous pouvions faire demi-tour et nous y retrouver, comme autrefois. Lili Marlène. À cette époque, nos deux ombres n'en faisaient qu'une. On ne pouvait que constater l'intensité de notre amour. Je voudrais que le monde entier nous retrouve sous la lanterne, comme autrefois, Lili Marlène. Cruellement, la sentinelle sonnait l'instant du rappel et je devais t'abandonner pour éviter la punition et nous devions nous séparer alors que j'aurais tant voulu suivre tes pas. Lili Marlène, il y a une sorte de superstition chez Hans Leib qui ne va pas écrire la dernière strophe en fait au départ.
Les deux dernières strophes, oui. Il les réserve, il les écrit dans sa tête car elles font allusion à sa disparition. Et qu'est-ce qui se passerait si j'étais plus là? Qui me succéderait sous la lanterne? Et il ne rédigera ce texte qu'en 1937, juste au moment où il va publier un livre qui, si on en traduit littéralement le titre est le jeune accordéoniste du port. Et à chaque fois qu'il publie un livre, les compositeurs allemands sont très attentifs, car ils savent que les poèmes d'Hans Leib font de merveilleuses paroles de chansons.
Et voilà, il a le don de la parole. C'est un parolier plus qu'un poète, finalement, ce Hans Leib.
Beaucoup plus, il a fait d'ailleurs une belle carrière. Il était multitalentueux, très doué pour les arts graphiques, très doué pour la poésie. Et puis alors là, 37, il se passe quelque chose d'incroyable.
Mais avant peut-être, Jean-Pierre, avant d'arriver à 37, alors vous nous avez dit, il va pas, la guerre est courte pour lui, hein, il a la chance, c'est un paradoxe à dire, mais il a la chance d'être blessé finalement oui. en Russie, donc il est démobilisé, le voilà qui rentre à Hambourg. Quand est-ce qu'on met une musique sur ses paroles ?
Très tardivement, à partir du moment où... Alors, il faut dire que quand il écrit son texte, il dessine une petite portée musicale sur le manuscrit.
Voilà, c'est ça que je voulais vous entendre
dire. C'est une première musique, alors là, dès 1915. Nous vivons un anniversaire, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est en avril 1915, il y a 97 ans, très très précisément, quasiment au jour près, que ce texte a été rédigé un soir de grand cafard. Et puis donc, la chanson est publiée en 37 dans ce recueil de poésie. Et là, il y a une jeune chanteuse qui s'appelle Lalle Andersen. C'est une femme jeune, assez libérée, blonde, filiforme, avec un physique très moderne. Et cette femme chante dans les petits cabarets de Berlin et de Munich. Elle chante des chants de marins en général.
En 37, elle a 32 ans. Hein, donc,
à peu près. Et puis là, en 37, très curieusement, à 3 semaines d'intervalle, deux compositeurs, qui sont l'un et l'autre parmi ses anciens amants, vont lui proposer, sur les mêmes paroles, deux mélodies différentes. Et là, Lalle Andersen va chanter ces deux mélodies sur fond de montée du nazisme, dans les petits cabarets de Berlin et de Munich. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde connaît celle qui a triomphé, la mélodie de Norbert Schulze, mais j'ai retrouvé l'autre chantée par la même Lalle Andersen, écrite par un certain Rudolf Zink.
Eh bien, si vous voulez, nous l'écoutons. Ce document extraordinaire, c'est Lalle Andersen qui chante donc cette autre Lili Marlène.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst, Lili Marlin. Unser beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen.
Vous voyez mon micro allumé. Voilà. C'est surprenant, là, c'est pas la Lili Marlène à laquelle on est habitué, Jean-Pierre.
C'est très étonnant, c'est d'ailleurs une version que préférait Lalle Andersen. Elle est beaucoup plus schubertienne. Le compositeur Rudolf Zink a été un élève d'Indemith. Il a une formation très, très classique, mais on voit qu'elle appartient au 19e siècle et l'air du temps, à l'époque, va vers un air plus martial, plus entraînant, qui va faire que c'est l'autre mélodie qui va l'emporter.
Alors, cette autre mélodie, on la connaît par cœur, on l'a déjà entendue deux fois, mais c'est pas la dernière de cette émission. Ce que j'aimerais, c'est qu'on entende un document encore plus rare, encore plus extraordinaire. C'est Hans Leib lui-même, alors ça il faut s'appeler Jean-Pierre Guénaud pour retrouver ce genre de choses, Hans Leib lui-même qui va fredonner un air, alors qu'il n'est aucun des deux airs proposés à Lalle Andersen, c'est encore une troisième version de Lili Marlène. Sait-on d'où elle vient, cette troisième
version ?
Oui,
peu de temps avant sa mort, il a été interviewé par la BBC. Il a chanté sa propre mélodie et sa mélodie, il l'a griffonnée dès avril 1915 sur le manuscrit original de la chanson.
Alors voilà ce que ça donnait.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und stand sie noch davor. So wollen wir uns dort wiedersehen,
vor der Laterne wollen wir sehen.
Est-ce qu'on peut dire que si Lili Marlène en était restée à cet état-là, ce ne serait pas devenu un tube planétaire? Je pense qu'on peut le dire, Jean-Pierre Guénot.
Oui, mais même dans son état définitif, les choses ont très mal démarré pour cette chanson, puisque quand, en 1939, Lalle Andersen en fait un disque, c'est un fiasco intégral. Il s'en vend 300 exemplaires et le disque est mis au rebut. Donc tout paraît fini.
On a l'impression que c'est Exit Lili Marlène, on n'en entendra plus jamais parler. Quelle erreur, puisqu'au contraire, ça va bientôt être une sorte d'explosion pour cette chanson qui va devenir la chanson la plus célèbre du monde.
Qu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous vous racontons aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire de Lili Marlène, une chanson incroyable, puisqu'elle aurait été à la fois un tube allemand, un hymne nazi et la chanson fétiche des troupes alliées de la Libération.
Eh oui, Franck. Alors on n'en est pas tout à fait là, évidemment. Cette chanson, pour l'instant, elle vient d'être créée par une interprète de légende, Lalle Andersen, sur des paroles, bien sûr, de Hans Leip, vous avez bien compris d'où vient ce texte, avec une musique de Norbert Schulze. Cette version mythique, je vous propose de l'entendre. Alors ça, c'est le maître étalon, en quelque sorte.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne. Und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Comme autrefois, Lili Marlène chante donc Lalle Andersen. Qui est-elle, cette Lalle Andersen? Il faut qu'on en dise un peu plus, Jean-Pierre Guénot.
Eh bien, ses parents l'appelaient familièrement Liselotte. Elle est née en 1905 à Bremerhaven, dans la mer du
Nord.
Donc
on est vraiment, oui, au bord de la mer, dans la brume, là-haut.
Voilà, alors son nom de jeune fille, c'était Elisabeth Bunnenberg. Et les nazis vont longtemps chercher à faire croire qu'elle est danoise. Parce que, on le verra, mais les nazis n'aimaient pas du tout cette chanson, en tout cas les idéologues. D'autant plus que Lalle Andersen a eu le tort d'avoir un amant juif et suisse, le célèbre Rolf Liebermann,
qui deviendra le patron de l'Opéra de Paris beaucoup plus tard.
Dans une seconde vie. Et donc, elle était clairement fichée par la Gestapo. Son père était l'un des pilotes du port de Brême, métier fascinant, et ne cessait de lui raconter des histoires de marins. D'où sa carrière. Alors, elle s'est mariée très jeune, à 19 ans, car elle voulait s'émanciper, elle avait besoin de liberté. Elle s'est mariée avec un artiste peintre qui lui a fait 3 enfants, puis elle a divorcé très vite, parce que c'était une femme libre et qui voulait mener sa carrière de chanteuse.
C'est ça, elle cherche, disons les choses très clairement, c'est d'ailleurs une préoccupation qui ne surprendra pas nos auditeurs, elle reste très actuelle, très moderne, elle cherche le tube qui va la rendre célèbre, cette Lalle Andersen. Et avec Norbert Schulze, elle y croit à cette Lili Marlène, à la version qu'on vient d'entendre là. Sauf que, comme vous nous le dites, la chanson n'a pas de succès, elle tombe très vite dans l'oubli, et du reste, le nouveau régime en place en Allemagne, le régime nazi, ne veut même pas en entendre parler. Et puis voilà que... Ça, c'est le hasard. C'est ça qui est extraordinaire dans ce genre d'histoire. Lorsqu'on suit la saga, que ce soit d'une œuvre d'art, d'un lieu ou en l'occurrence d'une chanson, c'est que tout à fait par hasard, à Belgrade, en 1941...
En août 41, eh bien, il y a Radio Belgrade, la radio des troupes allemandes, qui est la radio des militaires allemands, qu'ils soient en Afrique du Nord ou dans toute l'Europe, sur tous les théâtres de combat. Et là, un jour, un certain Hans Karl Reitgen, qui est un officier de la Wehrmacht, qui est le patron de cette radio, s'ennuie. Il s'ennuie. Alors, pour se désennuyer, il programme lui-même, il a des relations très proches avec un ami qui est le programmateur habituel. Et un jour, ils ne peuvent pas avoir accès au disque, car la RAF ne cesse déjà de bombarder Belgrade. Et ils sont donc condamnés, ce jour-là, à programmer, à mettre sur leur platine des disques qui sont au rebut, qui sont sous la table sous laquelle ils travaillent. Et là, ils en prennent quasiment 3 par hasard. Et parmi les 3, il y a la chanson de la jeune sentinelle qui va devenir Lili Marlène. Et là, c'est la folie.
C'est incroyable,
c'est un engouement complètement fou. En quelques semaines, j'ai bien dit en quelques semaines, la chanson va être traduite en 43 langues. Et en moins de 2 mois, imaginez que ça se passe ici à Europe 1, en moins de 2 mois, l'emblème du petit lampadaire avec les deux amoureux va devenir le logo de Radio Belgrade en moins de 2 mois. Peut-être que dans 2 mois, le logo d'Europe 1 va se transformer. Vous aurez une lanterne avec deux amoureux.
Je ne sais pas si Lily Marlène ferait un très bon jingle pour Europe 1.
Enfin, je ne sais pas, à réfléchir.
On va soumettre ça à la programmation. Ce qui est quand même assez étonnant dans l'histoire, c'est que c'est le public lui-même, et en l'occurrence un public militaire, ce sont les soldats qui vont faire la gloire de cette chanson.
Oui, et puis alors très vite, les programmateurs de la radio ne sont pas fous, ils vont en faire l'indicatif d'une émission qui tous les soirs, on n'a rien inventé en radio, c'est toujours la même chose, tous les soirs, 21h45, sur les antennes de Radio Belgrade, une émission envoie aux soldats des dédicaces de leurs petites amies, c'est vous dire s'ils écoutent. Et là, il va se produire quelque chose d'incroyable. Pendant 8 mois, dans le désert, du côté de Tobrouk.
Et c'est là. Alors là, il faut expliquer clairement aux auditeurs qui nous écouteraient d'une oreille ou qui seraient dans les embouteillages ou que sais-je. C'est là qu'il se passe une chose étonnante. On est bien toujours à Radio Belgrade au départ, mais nous franchissons la Méditerranée et nous nous retrouvons en Afrique du Nord.
Oui, parce que Radio Belgrade émet en Europe, comme on le disait tout à l'heure, et en Afrique du Nord. Et alors, à l'époque, il n'y a pas de transistor. Donc, pour distraire leurs troupes, les Allemands branchent la radio sur des haut-parleurs. Et dans les tranchées qui séparent la 8e armée des chars de Rommel et des troupes de Rommel, les soldats écoutent ça tous les soirs, mais on n'arrête pas les ondes. Et pendant 8 mois, c'est quasiment l'équivalent de Joyeux Noël pour la Grande Guerre, pendant 8 mois, il y a un cessez-le-feu officieux entre les lignes françaises, allemandes et anglaises. À 21h45, tout le monde écoute Lily Marlène, et quand ça n'est pas assez fort, les officiers britanniques prennent des mégaphones et demandent aux Allemands de mettre plus fort. C'est quelque chose d'incroyable.
Donc là, clairement, la chanson est en train de changer de camp. Elle est en train de captiver les soldats britanniques d'Afrique du Nord comme elle avait captivé les soldats allemands jusqu'alors.
Mais c'est beaucoup plus grave que ça, que de changer de camp. Elle transcende les clivages.
Et voilà.
Et c'est ce qui déplaît profondément à Goebbels. Parce que ce qui transcende les clivages, que ce soit les clivages entre les militaires et les civils, ou entre les militaires des deux camps, puisque les Anglais vont chanter cette chanson en allemand jusqu'au début de l'année 44, c'est quelque chose d'insupportable. Aux yeux de Goebbels, il ne le supporte pas.
Alors Goebbels, donc le patron de la propagande nazie, est totalement irrité, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette chanson et par ce qui est en train de se passer. Mais il y a dans l'aréopage des dignitaires nazis un certain nombre de fans de la chanson. Je pense notamment à l'épouse de Göring. Et on a même un document, alors là, qui est incroyable, c'est la fille de Göring, la petite fille à laquelle âge...
La fille de Göring, puisque la femme de Göring est une ancienne chanteuse d'opéra.
C'est ça, oui.
C'est pour ça qu'elle adore cette chanson. Et on va entendre sa petite fille.
La petite fille, elle a 3 ans, 4 ans.
Qui a 4 ans,
oui, 4
et qui chante a cappella une certaine
chanson. Alors ça, c'est un document un peu étonnant. La fille de Göring, 4 ans, en train de chanter Lily Marlène. Il n'y a aucun doute, c'est pas très bien chanté, mais c'est bien Lily Marlène et c'est bien la fille de Göring, c'est assez extraordinaire. Alors là, il va bien falloir que les Allemands réagissent. Ils vont essayer de récupérer, en quelque sorte. Le régime va vouloir récupérer la chanson de Lalle Andersen.
Il va d'abord essayer de faire interdire la chanson, parce que comme elle est démoralisante, aux yeux de Goebbels, c'est une chanson lamentable. Et malheureusement, et heureusement pour la chanson, il y a d'autres protecteurs, il y a Rommel. Qui adore cette chanson et qui l'a fait programmer, reprogrammer en Afrique du Nord.
Qui justement dirige les troupes, l'Afrika Korps, hein, les troupes allemandes.
Il y a également le grand boxeur olympique, Hans Schmeling.
Et
pour
oui.
une raison fort simple, c'est que Hans Leip, l'auteur du texte, est le biographe officiel de Hans Schmeling. Malgré ça, Goebbels fait tout ce qu'il peut pour faire déporter Lalle Andersen et n'y arrivant pas, il va se venger. Il va se venger, et alors c'est là qu'on voit que cette mélodie se prête à tout, car il va transformer la mélodie en marche nazie, et quand on écoute cette marche, on voit très bien les SS défiler au pas de l'oie.
En marche militaire, restait les côtes d'Europe 1. On va en savoir encore plus sur cette célèbre chanson avec Franck et son invité aujourd'hui.
Franck Ferrand sur Europe 1. au cœur de l'histoire.
Lili Marlène, l'incroyable histoire de la plus belle chanson d'amour chez Librio. Je rappelle que c'est le titre de votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Jean-Pierre Guénaud.
Ah oui, Jean-Pierre Guénaud, donc, qui sort ce petit livre, ce Librio, sur la chanson Lili Marlène, avec une photo de Marlène Dietrich en couverture, parce que ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, la machine à rêver. Et là, on est
la
vraiment
figure,
la figure absolue. C'est l'icône Marlène Dietrich. Nous allons reprendre le cours de cette saga, c'est une véritable saga. Ce qu'il faut bien dire, c'est que Jean-Pierre Guénaud nous fait des cadeaux, là. Ce sont des scoops que nous entendons à cette antenne. Alors évidemment, il manque l'image, mais l'image, vous l'aurez ce soir à partir de 23h15 sur France 3.
France 3.
Puisque, alors là, vous aurez la même histoire, si je puis dire, mais avec tous les éléments, toutes les interviews et tous les éléments visuels, évidemment.
C'est complémentaire, finalement.
Ah oui, je pense, on doit pouvoir le dire. Alors, Jean-Pierre Guénaud, nous en étions restés à cette attitude assez ambivalente du régime nazi à l'égard d'une chanson qu'il ne sait pas comment prendre et qu'il essaie de récupérer à toute force. Ce qu'il faut dire, et c'est la partie la plus sombre de cette histoire, c'est que Lili Marlène a probablement servi de fond sonore à quelques-uns des massacres les plus effroyables de la Seconde Guerre mondiale, ceux pratiqués par les Einsatzgruppen sur le front de l'Est.
Alors la première tentative de Goebbels, c'est d'inviter Lalle Andersen dans un voyage de people qui a lieu pendant l'été 42. La grande mode, c'est d'emmener les people berlinois pendant l'été 42 voir le zoo humain qu'est aux yeux des nazis le ghetto de Varsovie. On vient voir crever de faim les vieillards et les enfants. Quand Lalle Andersen se rend compte de ce qui se passe, la veille au soir, grand bal ouvert par l'adjoint direct de Goebbels, qui rêve de passer une belle nuit avec Lalle Andersen, car elle est très jolie. Il a des mains très entreprenantes et lors de l'ouverture du bal, elle le gifle en public. Le lendemain, lorsqu'elle arrive dans le car avec tous les people qui viennent visiter le ghetto, elle reste dans le car et elle refuse de le visiter. Là, les choses commencent à se corser quand elle revient à Berlin. Il y a deux agents de la Gestapo
persona grata, là,
en bas de chez elle et on envoie son fils qui a 21 ans immédiatement sur le front russe. Elle essaie de se suicider 8 jours plus tard. Dieu merci, elle survit parce qu'elle est désespérée. Elle est interdite de chant pour 1 année. Ça va faire une révolution chez les soldats allemands. Et puis Goebbels réitère sa tentative de détournement. Et à l'époque, les Einsatzgruppen vont de la Pologne vers la Russie. Ce sont des unités SS qui font de l'élimination ethnique. À chaque fois qu'ils passent dans un village polonais, puis dans un village russe, tout ce qui ressemble à une opposition à Hitler, qu'il s'agisse des juifs, des tziganes, des socialistes, des communistes, tous les gens sont éliminés. C'est encore l'ère de la Shoah par balle ou par brasier, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans les solutions industrielles des chambres à gaz. Et là, parfois, les bourreaux, pour se donner du cœur à l'ouvrage, connectent des phonographes sur des haut-parleurs et font retentir de façon très, très forte le chant. Ça a laissé quelques traces en Pologne, puisque en l'année 2004, lors des grandes commémorations du débarquement à Romanche, devant tous les chefs d'État, il était entendu que Patricia Kaas devait chanter Lili Marlène.
Mais oui, c'était prévu au programme.
Tout était prêt. Et puis la veille, certains Polonais se sont souvenus du fait que cette chanson, Elle n'y peut rien, avait quelques tâches, et donc ont mis leur veto, à tel point que Patricia Kaas a fini par chanter Lili Marlène.
L'amour, oui, c'était plus tout à fait la même chose, évidemment. Cette récupération par les nazis de la chanson, elle a en pendant, si je puis dire, une récupération par les Américains et les Britanniques. Les alliés essaient de détourner eux aussi Lili Marlène et d'en faire un instrument de propagande à leur service. Là, ça devient quand même une chose
incroyable. Oui, parce qu'ils sont très gênés de voir que leurs troupes chantent cette chanson en allemand toujours en janvier 44. Donc, première chose, ils vont en commander des versions britanniques, des versions en langue anglaise ou américaine. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils vont eux aussi tourner un film de propagande de plus d'une demi-heure, dans lequel il réinvente la vie de Lalle Andersen. Elle est à nouveau danoise, comme dans la bouche de Goebbels. Et on prétend que le texte aurait été écrit par un opposant à Hitler dans les années 30, dans un land opposé à Hitler. C'est-à-dire qu'on fait un véritable roman.
On invente une histoire à cette chanson. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la véritable histoire d'Lili Marlène, on l'a compris là maintenant, est déjà en soi une chose incroyable. Mais ce que font les anglo-saxons en l'occurrence, c'est de réinventer de toute pièce une histoire qui n'a rien à voir avec la...
Totalement, parce qu'elle gêne tout le monde. Alors cette chanson plaît à tout le monde. monde, dans les deux camps, les militaires dans les deux camps, les civils dans les deux camps, dans le monde entier, et elle dérange les autorités. Parce que, une fois de plus, que les gens soient dans le camp de la liberté ou dans l'autre camp, on n'aime pas ce qui transcende les clivages.
Et c'est assez.
Mais c'est le propre de la musique, c'est le propre de la chanson.
Alors il y a donc de nouvelles interprètes. On a dit tout à l'heure un mot de Suzy Solidor, puisque moi j'étais parti de cette occupation française. Dans la France occupée, c'est Suzy Solidor qui incarne la chanson, en quelque sorte. Dans le camp allié, quelles sont les chanteuses?
Alors, il y a des chanteuses comme Anne Shelton qui font interprétations magnifiques. Suzy Mannheim aussi, qui est une speakerine allemande reconvertie, qui est passée dans le camp allié. Et puis, on va arriver, bien sûr, avec Marlène Dietrich. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que les anglo-saxons, indépendamment de la propagande, vont donner à la mélodie des côtés jazzy, des côtés chauds, qui petit à petit vont faire de cette chanson l'hymne de la liberté retrouvée. Et c'est ça qui est absolument magnifique. C'est très très étonnant d'entendre les interprétations martiales du début de la guerre par Lalle Andersen et puis les premières interprétations de Marlène Dietrich.
Ce qui est extraordinaire avec Marlène Dietrich, c'est qu'elle arrive tard dans cette histoire tout de même, mais elle s'approprie la chanson au point que Lili Marlène, aujourd'hui, ce soit dans l'imaginaire collectif, peut-être davantage encore, chez nous, ce serait pas vrai en Allemagne ce que je dis, mais en tout cas en France, c'est davantage Marlène Dietrich que Lalle Andersen, évidemment. Et ce qui est frappant, et tous ceux qui ont bien connu Marlène Dietrich, je pense à notre ami Louis Boson notamment, que je salue chaleureusement, mais un certain nombre d'autres personnes nous disent que Marlène Dietrich, lorsqu'elle interprétait Lili Marlène, même bien après la guerre, même dans les derniers tours de chant qu'elle donne dans les années 70, était intimement convaincue de porter un symbole, en fait.
Oui, mais en même temps quelque peu irritée, parce qu'elle aimait rappeler à qui voulait s'en souvenir le fait que sa carrière quand même n'avait pas commencé avec Lili Marlène, mais le problème, c'est qu'elle s'appelle Marlène Dietrich. Alors évidemment, tout le monde a rassemblé les pièces du puzzle. Elle aimait à rappeler, Marlène Dietrich, que sa carrière, quand même, remontait à toute sa carrière de comédienne, L'Ange Bleu et le reste. Et ça l'irritait de voir que les gens résumaient toute sa carrière à cette chanson.
Et en même temps, bien sûr, ça restera peut-être ce qu'elle a fait avec L'Ange Bleu de plus mémorable.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer.
La voix inoubliable de Marlène Dietrich. Alors, ce qu'il faut dire, Jean-Pierre Guénot, c'est un peu plus anecdotique, mais c'est que la chanson a continué de vivre, qu'on la voit régulièrement dans des shows, dans des comédies musicales, au cinéma, etc. Voilà, par exemple, une version très, très moderne de Lili Marlène que je vous propose, c'est Kid Creole et The Coconuts. Voilà, donc...
Les années 80.
Là, c'est les années 80.
Oui, elle était reprise par des groupes de rap, enfin, c'est agréable. Et toujours interdite dans les pays totalitaires, car les dictateurs, jusqu'à la chute du mur et après, détestent ce qui transcende les clivages.
Nous reviendrons sur toute cette histoire, donc, ce soir, à 23h15 sur France 3, dans l'ombre d'un doute. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guénot, d'être venu avec plein de belles musiques dans votre besace. Et puis, merci d'avoir édité ce très beau livre, Librio, qui s'appelle Lili Marlène, l'incroyable histoire de la plus belle chanson d'amour.